Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer l'hypoparathyroïdie et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Mesdames Christelle Niederkorn et Delphine Bessoni, toutes deux concernées par cette maladie rare et coprésidentes de l'association Hypoparathyroïdisme France. Madame Niederkorn, Madame Bessoni, bonjour.
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 Alors Madame Niederkorn, on va commencer ensemble. Comment est-ce que vous avez été concernée par cette maladie rare ?
En fait, je suis atteinte d'hypoparathyroïdie depuis maintenant plus de 10 ans après une chirurgie de la thyroïde pour un goitre multinodulaire toxique. Mon cas représente la majorité des patients atteints, c'est-à-dire que ce sont des femmes autour de 50 ans et après une chirurgie du cou. Cette maladie, elle peut par contre également aussi concerner des gens plus jeunes, voire même des enfants, des hommes. Et elle peut aussi avoir d'autres origines qui sont génétiques, auto-immunes ou encore idiopathiques. Pour ma part, je n'oublierai jamais les mots prononcés par le chirurgien avant l'intervention parce qu'il m'avait dit que la seule chose qui changerait dans ma vie, ça serait la prise quotidienne d'une hormone thyroïdienne, si seulement. Après l'intervention, j'ai été épuisée, j'ai vite ressenti d'intenses fourmillements dans tout le corps, des raideurs musculaires. Et 24 heures plus tard, en fait, survenait ma première crise de tétanie. On m'a alors expliqué que j'avais un problème de calcium, que tout allait rentrer dans l'ordre. On m'a dit que même je pouvais sortir de l'hôpital avec comme seule consigne de prendre du calcium 4 fois par jour. Je suis restée chez moi 5 semaines à attendre désespérément que ma calcémie remonte. Je luttais contre l'épuisement. J'avais vraiment de nombreux symptômes, des crampes, des fourmillements dans tout le corps et aussi fréquemment des crises de tétanie. Et ma calcémie, malgré les prises de calcium, restait très basse.
Et à ce moment-là, comment la découverte de la maladie a-t-elle eu lieu ?
Ensuite est arrivé le premier rendez-vous post-opératoire quelques semaines après avec un endocrinologue qui lui a prononcé un mot inconnu pour moi. En fait, ce n'était pas un problème de calcium, je souffrais d'une hypoparathyroïdie. Et il m'a d'emblée dit que vu mes taux de calcium, de calcémie et mon taux de parathormone effondré, que ça serait définitif. Et il avait bien raison sur ce point, malheureusement. Là encore, ces mots restent gravés dans ma mémoire. Il m'a dit que ce n'était pas de chance que ça tombe sur moi, que c'était une maladie complexe à gérer, entre les symptômes, maintenir un taux de calcium correct dans le sang, un taux de calcium dans les urines pas trop élevé. Moi, je me disais au moins, j'ai un nom de maladie et j'ai un médecin qui sait ce dont je souffre. Alors, il m'a prescrit un traitement un peu plus adapté que le calcium seul. Ma calcémie a un petit peu monté, très lentement, mais elle restait toujours très basse. Moi, en parallèle, je restais très symptomatique, j'étais fatiguée, j'étais épuisée. J'avais très souvent des crampes, des paresthésies, des fourmillements, des douleurs musculaires, des malaises. Mon moral était très, très affecté. Et c'est un euphémisme. Mon traitement, il a été augmenté, majoré. Et puis, bingo, ma calciurie s'en est trouvée trop élevée. Le comble, ça a été que même avec une calcémie dans les normes basses, mes symptômes n'avaient pas disparu. Et le médecin spécialiste, du coup, mettait un petit peu en doute mes dires. C'est à ce moment-là que j'ai découvert par mes recherches l'association et l'apparition du PNDS, le Protocole National de Diagnostic et de Soins, fin 2017. J'ai échangé avec mon médecin traitant sur toutes ces informations et il m'a orienté vers un centre de référence pour maladies rares. Et là, le suivi vraiment par un médecin spécialiste, ça a changé ma prise en charge au bout de 5 longues années d'errance. J'ai rapidement bénéficié d'un traitement de seconde ligne par parathormone de synthèse car j'étais très symptomatique avec une calciurie trop haute. Ce traitement a amélioré mon état clinique, mais n'a pas fait disparaître tous les symptômes. Il a fallu de longs ajustements de dosage, et il y a un équilibre actuel qui reste fragile, et il est obtenu que par des injections toutes les 8 heures d'un produit qui se conserve au frais, donc ce qui est très contraignant.
Aujourd'hui, comment est-ce que vous vivez votre hypoparathyroïdie au quotidien ?
Cette maladie a complètement bouleversé ma vie. J'ai tenté de maintenir une activité professionnelle, je dirais contre vent et marée. Je n'ai pas échappé à des crises de tétanie traumatisantes, avec des prises en charge aux urgences pas toujours adaptées par méconnaissance de la maladie. J'ai commencé au début par lutter et tenter de me battre. Mais en fait, je me suis aperçue que c'était vain parce que ça n'a aucun sens de combattre une maladie chronique. Cette maladie, on l'aura jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et il m'a fallu plusieurs années pour intégrer tout cela. J'ai appris progressivement à écouter mon corps, à doser mes activités, à anticiper, à gérer tant mes prises de médicaments que mes apports de calcium. Et surtout, surtout, j'ai dû revoir mes priorités et ma vie autrement, différemment. Je suis en congé longue maladie. Et actuellement, ce qui me permet de me concentrer sur tout ce travail. Et je suis encore en quête d'un équilibre pour tenter d'améliorer ma qualité de vie.
Alors, vous présidez aujourd'hui l'association Hypoparathyroïdisme France. Qu'est-ce qui a guidé votre démarche ?
Je ne me suis pas posé de questions sur cette implication parce que pour moi, ça a été une évidence, comme beaucoup de projets en lien avec la maladie. J'ai connu un long chemin solitaire au début vers l'intégration d'éléments et d'acceptation. Et mon implication, j'espère qu'elle permettra à d'autres malades d'avoir un chemin moins chaotique, moins long et moins pénible. Et c'est vraiment ça qui a motivé mon engagement.
Bien, merci Madame Niederkorn. Madame Bessoni, vous êtes également coprésidente d'Hypoparathyroïdisme France. De votre côté, quel a été votre cheminement ?
Je suis atteinte, moi aussi, comme Christelle, d'hypoparathyroïdie depuis plus de 5 ans, suite à la découverte d'un adénome parathyroïdien et d'une chirurgie du cou. On va dire que cet épisode sera le début d'une longue descente aux enfers, sans parathormone, donc sans PTH. Mon équilibre phospho-calcique restera longtemps excessivement difficile. Mon endocrino se démènera pour ajuster mon traitement et moi aussi, je serai orientée vers un centre de référence. Parallèlement à tout ça, je cherche des infos sur Internet, je fouille et je trouve énormément de soutien. Un soutien presque vital auprès de l'association Hypopara France. Ses membres ont beaucoup aidé. Le moment est venu de donner à mon tour, je le crois. Et voilà pourquoi je suis devenue coprésidente. La charge est extrêmement lourde, les enjeux sont importants et le format de coprésidence permet la complémentarité car nous restons avant tout des malades.
Et aujourd'hui, quelles sont les missions de l'association, justement ?
Alors, l'association Hypoparathyroïdisme France a été créée en 2015 suite au constat d'une grande méconnaissance de la part de la population et aussi des organismes de santé en France des impacts de l'hypoparathyroïdie sur la vie des malades au quotidien, ainsi que sur les traitements et les examens nécessaires à leur suivi. Ce vide et la rareté de la maladie plongent les patients dans l'isolement avec des symptômes mal compris, des traitements pas toujours bien adaptés. Pour ce faire, l'association tend vers quatre grands objectifs majeurs. Le premier est de regrouper les patients français et francophones atteints d'une hypoparathyroïdie, leurs familles, leurs proches et toute personne se sentant concernée par cette maladie. Le deuxième, c'est de permettre aux patients et à leurs proches de mutualiser leurs expériences et de s'aider moralement. Le troisième, c'est d'améliorer l'information des patients et du corps médical. Et enfin, le dernier, c'est de promouvoir, d'encourager et de faciliter la recherche scientifique et médicale et faire connaître les résultats de ces recherches et expérimentations.
Alors justement, en termes d'actualité, quelles sont les priorités de l'association Hypoparathyroïdisme ?
Alors, on mène plusieurs actions de front, nos actualités sont multiples, nos vecteurs de communication aussi. Je dirais que pour soutenir les malades, on a une grosse présence sur les réseaux sociaux, de Twitter à TikTok, en administrant aussi une page Facebook fermée, exclusivement réservée aux malades hypoparathyroïdes. En échangeant avec eux, en proposant une newsletter trimestrielle aux adhérents de l'association qui s'appelle PTH, Potin, Prési Poupara. On a aussi la mission de promouvoir la recherche en participant aux travaux de l'étude EPI-HIPO, qui est la première étude nationale sur l'épidémiologie de l'hypoparathyroïdie, et de COMPAR, qui est là une étude sur le parcours, les expériences et la qualité de vie des malades, entre autres. Ensuite, nous poursuivons nos actions de sensibilisation, encore et toujours les professionnels de santé, à cette maladie si peu commune, en étant présent sur les événements comme le congrès annuel de la Société française d'endocrinologie à Marseille ou celui de ESE, qui est la Société européenne d'endocrinologie, en octobre, ou encore en étant membre actif auprès de la filière OSCAR de l'association Alliance Maladies Rares, entre autres. Et enfin, c'est d'améliorer le quotidien des patients via les informations proposées cautionné par notre comité scientifique, via un réseau d'entraide et de soutien bien maillé par les bénévoles, via des cafés-causeries en distanciel, appelés PTH aussi, partage ton humeur, via aussi notre participation au programme d'éducation thérapeutique du patient hypoparathyroïdie, proposé par le CHU de Nantes, à la fois en ayant participé au contenu, et en participant au cycle par la présence de patients experts bénévoles issus de l'association. Entre autres, nous participons à 4 ateliers sur les 6 proposés. Ce sont des ateliers collectifs sur 6 thèmes, vivre avec une hypopara, symptômes et signes d'alerte, les traitements, le suivi, la communication et la diététique. Le prochain cycle, par exemple, se déroule au mois de novembre. Pour ce faire, vous pouvez contacter une boîte mail bp-etp-hipopara@chu-6-nantes.fr. Ce programme est disponible pour l'ensemble des patients français grâce au mode visioconférence.
C'est un programme très très riche. Alors pour conclure, est-ce qu'il y a un message que vous souhaiteriez faire passer au nom de l'association ?
Avec Christelle et l'ensemble des membres d'Hypopara France, nous souhaiterions faire passer 3 grands messages qui nous semblent essentiels. Le premier est de parler de l'hypoparathyroïdie comme d'une maladie endocrinienne due à un défaut de sécrétion de parathormones. Cette maladie n'est pas qu'un problème de calcium. C'est le premier et on y tient très fort. Le second point est que de nombreux patients peuvent ou ont des symptômes, même avec des calcémies, dans la norme basse, et que la prise en charge doit s'attacher à équilibrer les valeurs biologiques, mais aussi les symptômes du patient. C'est un point de vue majeur dans l'accompagnement des patients. Et enfin, le dernier relève de la reconnaissance de la maladie. L'hypoparathyroïdie est une maladie rare, invalidante pour beaucoup, et elle est invisible à la vue. Elle affecte notre quotidien sur de nombreux plans. Elle est souvent incomprise par notre entourage personnel ou professionnel et peut avoir des résonances très négatives. Des préjugés, de l'exclusion, des critiques, de l'isolement. Et j'en passe. En effet, le handicap invisible est souvent minimisé, incompris ou même non reconnu en tant que tel par les autres ou la société.
Eh bien, merci mille fois, Madame Niederkorn, Madame Bessoli, de nous avoir fait mieux connaître cette maladie rare qu'est l'hypoparathyroïdie. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre compte Instagram Rare à l'écoute ou sur notre site internet www.rarealécoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition et où vous pourrez retrouver les précédents épisodes consacrés à cette pathologie. Nous vous remercions pour votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur une nouvelle maladie rare. À très vite.